France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Gary Hoffman, violoncelliste, né à Vancouver le 24 juin 1956.
Gary Hoffman, lorsque vous êtes élève de Karl Frühl, pendant ce temps-là, vos frères et sœurs, eux, sont à la Juilliard, parce que vous êtes le seul à ne pas y être allé entre vos parents et vos frères et sœurs, non?
Des six, oui, j'étais le seul de ne pas passer par la Juilliard, bizarrement. Hein. Mais c'est uniquement dû au fait que Starker, Jan Starker, était prof à Bloomington. S'il était prof à la Juilliard, j'aurais certainement... Et la Juilliard comme le reste de ma famille.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez tant voulu suivre l'enseignement de Janosch Starker? Racontez aux auditeurs, Janosch Starker.
C'était un sentiment que j'avais à l'époque. Lui, il pouvait m'apporter dont j'avais besoin.
Qu'est-ce que vous attendiez?
C'était
qu'est-ce
plus
qu'il avait?
Sa connaissance de tous les aspects physiques, techniques de violoncelle et le lien avec, si vous voulez, la partie musicale, intellectuelle, etc. Tout ça. J'ai senti que... j'avais besoin de plus de connaissances physiques de comment ça se passe. Mais c'était dur pour moi pendant un certain temps parce que c'est vrai que, évidemment, elle était très exigeante. Ça ne m'a pas perturbé. Mais c'est vrai que pendant un an ou deux ans, mes parents étaient un peu inquiets parce que j'ai un peu perdu mon naturel. Et je suis devenu très conscient de tout. Sur le plan instrumental, c'est sûr. Et même, je dirais, musical, j'ai perdu un peu de... Non, on peut pas perdre son instinct, mais je jouais beaucoup moins sur l'instinct et beaucoup plus sur la réflexion et l'analyse, etc., tout ça. Et c'était juste une période. Mais c'est vrai que après un concert que j'avais fait à Bloomington en tant qu'élève, j'ai entendu la bande. Et je me suis dit, mais je joue comme Starker. Et ça m'a fait peur. Parce que ce n'était pas mon but. Et je ne savais pas à quel point je jouais comme lui. Et à partir de là, c'était un peu la révolte. Bon, j'étais jeune, donc voilà. À partir de là, j'ai tout fait pour ne pas jouer comme lui. La réaction totale de 180 degrés. Bon. Et il a compris sans rien dire. Mais c'est vrai qu'au fil des années, au fur et à mesure, j'ai pu enfin, et surtout en partant de Bloomington. J'étais plus âgé, j'avais 29 ans quand je suis parti de Bloomington, parce que j'ai commencé à travailler en tant que professeur là. Mais je savais que tôt ou tard, pour vraiment me retrouver, comme partir de la maison familiale, qu'il fallait partir de Bloomington. Et c'était pas parce que Starker lui-même s'imposait. C'est parce qu'il était juste présent, partout et toujours. Ce n'était pas du tout contre lui, mais pour trouver ma propre voie, que je commençais à trouver. Mais d'aller vraiment jusqu'au bout, je ne pouvais pas rester à Bloomington.
Thank you.
souvenez de la première fois que vous l'avez vu, Yann Oesterkerk, parce qu'on dit qu'il était glacial.
La première fois? Oui, la première fois je l'ai vu dans sa loge après un concert, j'avais 10 ans. Il avait joué avec l'orchestre de Chicago, le concerto de Hindemith. Et je suis allé avec ma mère, parce qu'elle le connaissait, et il avait signé mon programme. Après, il a joué avec mon père à Grant Park, le festival d'été. Et j'ai encore des photos avec ces deux-là, les deux habillés en noir, avec des cigarettes. C'était l'époque. Hein. Les deux assez cool. Hein. Là, j'avais 12 ans, mais il y a une photo avec moi. Et après, c'était quelques années après, lors d'une masterclass, quand j'ai commencé à travailler avec lui, avant d'aller à Bloomington. C'est vrai qu'il y avait pas mal de similitudes avec mon père, même physiquement un peu, mais surtout dans ses attitudes. Mais comme mon père, à l'extérieur, assez dur, comme vous venez de dire, Oesterkerk glacial. Mais à l'intérieur, tout sauf glacial. C'est souvent le cas avec ces gens-là. J'ai compris au fil des années que c'était quelqu'un, s'il te faisait confiance, c'était ton ami pour la vie. Donc c'est un peu... Il faisait rien pour l'apparence. Pour lui, c'était le fond qui comptait, c'était pas l'apparence. Donc il était très souvent mal compris, je dirais dans le métier, un peu par le public aussi. C'est vrai qu'il avait sa façon de jouer. On avait l'impression qu'il était un peu, pas en dehors, mais qu'il restait un peu à l'extérieur, hein, qu'il y avait une barrière. Mais en fait, cette barrière, c'était quelque chose, c'était dû à un conflit interne par rapport à son caractère, sa personnalité. L'envie de se montrer, mais il s'interdisait à montrer vraiment. Mais ses sentiments sortaient quand même. Mais d'une autre manière, c'était pas direct, c'était pas comme ça, naturel, toujours avec un peu de tension et un peu de conflit derrière. Après, c'est vrai que il vient de cette époque-là, mais comme mon père, mais lui, il venait de l'endroit juif, cette époque-là, c'était dur.
Oui, parce qu'il arrive aux États-Unis à la fin des années 40, oui, après avoir eu quand même toute sa famille qui était disséminée par la Shoah. Donc c'est aussi tout ce trajet que lui a quand il arrive aux États-Unis.
Absolument. Et il arrive aux États-Unis, il est pris sous l'aile de Fritz Reiner, qui lui donne son premier poste, je pense à Dallas. Ensuite, il y avait le Met, et ensuite Chicago. Et après Bloomington. Et donc... Bloomington, il y est resté tout le reste de sa vie, plus que 50 ans. C'est quand même incroyable. Ça, les gens, ils font plus ça. Mais il avait décidé. Il avait décidé, c'était en 59, je pense. Donc, il a dû avoir 35 ans, quelque chose comme ça. C'est quand même incroyable de décider à 35 ans. Je vais passer le reste de ma vie ici. Après, évidemment, il a beaucoup voyagé, énormément voyagé. Mais pour lui, Bloomington, c'était son endroit et il était persuadé, il était vraiment dédié à l'idée de créer quelque chose. Donc, grâce à lui, d'autres grands comme Joseph Gingold, Pressler, d'autres sont venus. Mais c'était le premier. Avant, c'était une très bonne école de musique, mais c'était beaucoup sur la composition, la théorie, etc., tout ça. Avec Oesterkerk, Gingold, Pressler et d'autres, c'est devenu une vraie grande école de musique. Des gens qui eux-mêmes étaient des stars sur la scène, c'était incroyable de marcher dans les couloirs à cette époque-là et voir le nom sur chaque studio. C'était comme une liste de bureaux de concert chez les plus grandes agences à New York, c'était fou.
Thank you. Quand vous dites Gary Hoffman qui avait Joseph Gingold, on n'apprend pas forcément que d'un professeur de son propre instrument.
Justement, parce que le studio de Gingold était juste à côté de celui de Starker. Et souvent, Gingold, entre les cours, il laissait la porte ouverte. Et souvent, je passais devant et il m'invitait de venir me parler, jouer pour moi. Ça, c'était incroyable parce que j'ai compris que là, à cette époque-là, c'était pas uniquement prendre des cours avec des grands comme ça, mais c'est de voir ce que c'est la vie en musique. Voir ces gens-là qui ont vécu toute leur vie dans la musique. Je savais déjà un peu, pas, évidemment, par ma famille, mais de voir tout ça. Et c'est ça qu'il voulait créer, Starker, cette atmosphère. Il me disait toujours, comme il avait lui-même à Budapest, à l'Académie Franz Liszt. C'est vrai que j'ai pu visiter après, quand j'ai joué là-bas, et on m'avait fait visiter le studio où Starker avait pris ses cours. Et après, ils m'ont montré, voilà, Bartok a passé 30 ans là. Ah, Bartok. Kodály, là. C'est vrai, ça, c'est émouvant de voir tout ça. Oui. Et c'est ça qu'il voulait à Bloomington. Et il est arrivé avec ses amis, comme Gingold et d'autres. C'était exactement ça.
Vous vous êtes retrouvé, en fait, très jeune, Gary Hoffman, un maillon de l'histoire de la musique. C'est-à-dire que votre père, c'était Koussevitzky. Quand on pense à Gingold, c'est Isaïe. Quand on pense à Starker, c'est Bartok. Il y a comme ça toute une chaîne qui se déroule. Est-ce que trouver sa place, c'est facile, ou la fascination des anciens, le respect, mais quelque chose aussi où on se demande quel langage on va trouver?
Je ne sais pas si c'est facile ou difficile, mais je peux vous dire que j'étais toujours conscient de l'histoire derrière moi. J'étais toujours fasciné et presque obsédé par des gens du passé. Je voulais savoir comment ils jouaient, ces violoncellistes, ces pianistes, ces violonistes, sans que les gens me disent, que ce soit mes parents ou mon prof. J'allais souvent à la bibliothèque à Chicago pour prendre des 33 tours. C'est là où j'ai découvert les valses de Chopin avec Dino Lipatti, et des choses comme ça. Et pour moi, c'était des révélations. Et encore, j'avais la musique chez moi tout le temps, mais j'étais toujours conscient du fait que, de toute façon, on vient de quelque part, et un jour, on sera plus là. Donc, qu'est-ce qui se passe après? C'est aussi très probablement parce que mes parents, ma mère et mon père aussi jouaient sur des instruments anciens de Cremone, de 18e et 17e siècle. J'avais connaissance de tout ça. Ma mère, elle adorait la peinture, elle faisait elle-même. Elle nous a fait visiter le musée de Chicago presque chaque samedi. Donc j'étais imprégné quelque part dans une culture de respect et de l'admiration des choses qui étaient là avant moi.
Les grands entretiens de Gary Hoffman, France Musique.
Vous parlez de Feuermann à la vidéo. Je vais vous raconter cette histoire parce que je trouve que c'est une belle histoire. J'ai lu des choses, des biographies de Feuermann, des articles. Donc je savais l'existence d'une vidéo et je rêvais toujours de le voir. Je savais si un jour j'allais la voir, cette vidéo de Feuermann. Mais à 18 ans, j'arrive à Bloomington. Et quelqu'un me dit qu'il y a quelque part, au sous-sol d'un bâtiment, quelque part sur le campus, une espèce de bibliothèque vidéo. Évidemment, ce n'était pas des cassettes vidéo, c'était des vidéos de l'époque, là, comment ça s'appelle, les trucs...
Des bobines.
Qui sont des bobines. Et il y a un catalogue avec des cartes. Et j'espérais, je croisais les doigts. Et donc, il n'y a personne d'autre. Donc, je prends mon temps, je vois la catalogue... Et je tombe sur le nom Feuermann. Je dis, mais est-ce que c'est possible de mettre ce film Pas aujourd'hui, il faut revenir. Ok. Enfin, j'ai pu m'asseoir dans une toute petite salle, moi tout seul, pour voir la vidéo. Je suis émerveillé parce que je savais l'existence de ce truc-là depuis des années. Mais c'est vrai que ça m'a demandé un effort. Et c'était d'autant plus excitant. Il y a ce truc qui existe quelque part. J'ai envie de le sentir, de le trouver, de le vivre. Et il y a certaines choses, j'ai toujours dit dans la musique, je savais toujours, bon, j'étais éduqué comme ça, mais dans la musique, ça prend du temps. Et je dis, heureusement, ça prend du temps. Heureusement, ça a pris du temps pour les Beethoven et les Brahms de créer ces chefs-d'œuvre. On se doit apprendre le temps. Et je dis toujours aux jeunes aujourd'hui de rester patient. Ça va porter des fruits. Peut-être pas tout de suite, peut-être dans 10 ans, peut-être dans les manières dont t'es pas forcément conscient tout de suite, mais ça va porter des fruits. De toute façon, tu apprends des choses sur le chemin. On dit toujours, c'est pas le but, c'est le chemin qui compte. Mais c'est vrai, c'est vrai.
Dans ce chemin, Gary Hoffman, vous avez de bons guides, Karl Fru, ensuite Janosch Starker, vous avez aussi Joseph Gingold, il y en a plusieurs qui passent comme ça. Je crois que vous avez également pu rencontrer Isaac Stern et Serkin.
Serkin, Stern, je ne les connaissais pas très très bien, mais j'ai passé 2 étés à Marlborough, donc j'ai beaucoup vu Serkin lors de ces 2 étés. On a même joué ensemble, un trio de Beethoven. Je lui ai posé pas mal de questions et je l'ai juste vu comme ça, sur le quotidien, manger avec nous, faire des conneries, dire des bêtises, voilà, comme une personne normale. Isaac Stern, on s'est croisés de temps en temps à New York, on a joué ensemble une fois, c'était émouvant. Juste voir ces gens-là qui sont des gens comme tout le monde, mais avec un rapport et une perspective particulière à eux-mêmes. Je pense que c'est important. C'est aussi quelque chose que j'essaie de dire aux jeunes que, oui, bien jouer, je sais pas ce que ça veut dire bien jouer, mais il faut une idée derrière. Ça vient pas tout seul. Si on a du talent, si on a la chance de... Oui, il y a certaines choses qui viennent comme ça, tout seul, mais il y a un moment, en tant qu'adulte, on se doit réfléchir un peu, avoir une certaine philosophie de la vie ou de la musique. Ça donne aussi une force. Ces gens-là, les Stern, les Serkin et d'autres que j'ai pu rencontrer, c'est vrai que je suis assez âgé maintenant de pouvoir dire, et parfois ça surprend mes élèves, parce que j'ai travaillé un peu avec Piatigorsky à la fin de sa vie. Évidemment, Rostro et d'autres, Feuerman, non. Malheureusement, Casals, non.
Et
Mais
Piatigorsky, alors, parlons-en.
Piatigorsky.
Qu'est-ce que vous nous diriez, Gary Hoffman, de ce qu'il a pu vous apporter, lui en particulier?
Déjà, le truc, et j'ai compris ça depuis quelques années maintenant, que parfois, on me pose, pas cette question, mais type de question de, par exemple, je fais quelque chose, ou peut-être un certain doigté, ou un truc technique, mais une idée musicale. Okay. Et quelqu'un me pose la question, mais ça vient d'où? Et je me dis, mais je ne sais pas, ça vient de moi. Mais très probablement, peut-être pas chaque truc, ça vient de quelque part. Souvent, il y a une influence derrière dont je ne me souviens plus. Et je trouve ça bien. Ça veut dire que c'est intégré et que c'est pas un truc artificiel. Après, en parlant de Piatigorsky, déjà c'était un idole pour moi, mais c'était quelqu'un qui avait une perspective de la vie, la joie de vie, mais de prendre les choses au sérieux, de respecter son talent, c'est-à-dire que c'était pas le bête de travail, c'est pas ça. Mais le respect de ce qu'on fait, de l'art, de la musique, du compositeur, il disait toujours, même si tu penses que tu es le meilleur, le compositeur, il est toujours meilleur que toi. C'était quelqu'un qui n'avait pas peur d'être lui. Une vraie personnalité. Il y en avait à cette époque-là. C'était des gens qui ont vécu des vies tellement riches, des Rubinstein, des gens qui ont vécu, qui ont goûté de la vie, qui ont compris que la musique, pour eux, c'était presque la religion, mais qu'il faut vivre quand même. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça se sent dans leur façon de parler à travers de la musique.
Starker disait que c'était comme une sorte d'escalier, la vie d'un artiste, quoi. Il y avait tout le temps des marches, alors à un moment on arrive en haut de la marche, on dit bravo, bravo, on se félicite, on boit un coup de champagne, et puis ensuite on se retrouve en fait tout en bas de la marche suivante. Il faut toujours apprendre à remonter.
Il n'y a pas d'acquis, la remise en question permanente. Mais je trouve ça bien parce que nous sommes des êtres humains, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à acquérir quelque chose ou arriver quelque part et penser que ça y est, c'est fait, je suis là pour toujours. Et c'est pas une question de concurrence avec, parce qu'il y a d'autres derrière. C'est vrai que moi, j'ai jamais pensé comme ça. J'ai pas forcément peur des autres, etc. Tout ça. Moi, j'ai l'impression que je suis mon chemin, mais c'est vrai que quelque part, pour essayer d'aller sur le plan personnel, plus loin, il est important de tout remettre en question. Donc forcément, si on est un jour, en haut de la marche, forcément, on recommence, peut-être pas à zéro, parce qu'il y a certaines bases qui sont là, mais on recommence quand même. Et je voulais juste vous dire, parce que je connais quelqu'un qui avait demandé à Starker une fois, « Monsieur Starker, dans votre vie, et je pense qu'il avait joué je ne sais pas combien de milliers de concerts, combien de temps est-ce que vous étiez satisfait ou content après un concert ? » Il réfléchit, il dit 8 fois. Voilà. Ça, c'est vraiment en réponse à la Starker. C'est choquant, il savait, et c'est très probablement vrai.
Thank you.
C'était sur cet extrait de la sonate numéro 1, opus 38 de Johannes Brahms par Gary Hoffmann et Claire Désert que se referme le troisième épisode des Grands Entretiens avec Gary Hoffmann. Réalisation Perrine Minguy, prise de son Sandrine Malon, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait, demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.